quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer cette visite par le contexte historique de la Retirada, l'un des premiers grands exodes des temps modernes. Commençons par un bref exposé sur la guerre civile espagnole, puis nous évoquerons la guerre médiatique et le camp républicain, sans oublier les brigades internationales. Nous terminerons par présenter la Retirada que nous illustrerons par quelques photos. Pour commencer cette visite, nous allons en apprendre plus sur le contexte de la guerre civile. En 1931, s'instaure à la suite d'élections la Seconde République en Espagne. Le roi Alfonso XIII est contraint de s'exiler. L'Espagne cesse donc d'être une monarchie. Dès 1931, commence une période de réformes. Des réformes sociales, comme le droit au vote de la femme et le droit au divorce, la réforme agricole, permettant la répartition des terres, la réforme éducative de lutte contre l'analphabétisme et la réforme du travail. Février 1936 est marqué par la victoire du Front populaire, la coalition des partis de gauche, pendant les élections générales qui exacerbent la polarisation entre les forces progressistes et conservatrices. Le 17 juillet 1936, le coup d'État dirigé par le général Franco débouche sur une guerre fratricide jusqu'en 1939 dans laquelle s'affrontent les franquistes nationalistes contre les républicains, les défenseurs de la Seconde République. Le saviez-vous ? Pendant la guerre civile, il y a eu une véritable guerre médiatique. Les affiches de propagande ont été un outil fondamental avant la guerre, mais aussi pendant. Elles furent utilisées aussi bien par le camp républicain que par le camp franquiste. Durant toute cette période, il y a eu une véritable guerre des images. Prenons l'exemple de la Falange, qui était un parti d'extrême droite en faveur du catholicisme national, c'est-à-dire que l'un de ses piliers était les valeurs conservatrices de l'Église. Ce parti a été fondé par José Antonio Primo de Rivera, qui avait l'intention d'unir le destin du pays avec une vision intégriste du catholicisme. Le camp républicain, constitué par le peuple fortement politisé et armé par la République, était soutenu par les brigades internationales. Les brigades internationales étaient constituées des volontaires communistes en faveur de la liberté, qui décidèrent d'aider les républicains espagnols. Il y avait entre 35 000 et 40 000 volontaires. La France fut le pays qui apporta le plus grand nombre de volontaires, qui s'éleva jusqu'à 9 000 personnes. Leur objectif était de sauver des vies. En effet, au début, la majorité des volontaires étaient des médecins, et par la suite, s'engagèrent des personnes des classes moyennes comme des ouvriers. Les brigades internationales voyaient dans cette lutte l'opportunité de freiner la progression du fascisme dans le monde entier. La Retirada est le nom donné à l'exode des républicains espagnols vaincus par les franquistes qui débuta le 27 janvier jusqu'au 13 février 1939. Il est considéré comme l'un des premiers grands exodes des temps modernes. La Retirada marqua le début de la Seconde Guerre mondiale avec la défaite de la République espagnole et la victoire de Franco, aidé par Mussolini et Hitler. C'est ainsi que 500 000 républicains espagnols et volontaires des brigades internationales rejoignirent la France, pays des droits de l'homme, à partir de janvier 1939. Les exilés traversèrent les Pyrénées dans des conditions dramatiques pendant l'hiver le plus froid du XXe siècle, fuyant le fascisme et sa violente répression. Malgré le soutien de certains réseaux d'entraide, le gouvernement français, par peur, opta rapidement pour une politique d'isolement. Il voulait avant tout renvoyer les réfugiés chez eux autant que possible et subissait également la pression de Franco, qui voyait en la fuite des Espagnols un moyen de tenir les opposants politiques à distance. Voici un témoignage d'un rescapé de cet exode massif. Roby Lamosa avait 11 ans lorsqu'il a traversé les Pyrénées dans le froid et la peur pour rejoindre la France après la chute de Barcelone début 1939 et la victoire des franquistes. Une épreuve gravée à vie, raconte l'homme aujourd'hui âgé de 91 ans. Ensuite, nous avons traversé les Pyrénées à pied, très lentement, pendant 4 jours, Nous étions 16 personnes, dont 11 enfants, âgés de 4 à 13 ans, se souvient Romy Lamossa. Il y avait beaucoup de gens qui fuyaient par la montagne. Nous ne pouvions pas marcher à découvert parce que des avions mitraillaient. Alors, nous restions dans les bois, souvent sous la pluie glacée, et dormions parfois à même le sol gelé, la faim au ventre, ajoute celui qui assure toujours ressentir dans son corps et revivre dans son esprit ce terrible exode. À leur arrivée, ils furent entassés sur les plages du littoral méditerranéen et obligés de construire leurs baraques dans lesquelles ils furent ensuite enfermés. Pour accueillir cette masse de migrants politiques, le gouvernement français créa le premier camp sur la plage d'Argelès, premier camp de concentration d'une longue liste qui furent construits dans les années suivantes dans les villes de la côte méditerranéenne. Les réfugiés souffraient des mauvaises conditions et d'une humiliation constante de la part des gendarmes français qui se moquaient d'eux, même si en dehors des camps, ceux-ci étaient soutenus par la gauche et les anarchistes français. Ce phénomène de la retirada, qui souleva une certaine xénophobie en France, ne fut que le prélude de nombreux massacres qui furent commis plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. La retirada représente alors la victoire du fascisme et montre la faiblesse des démocraties européennes qui ne firent pas preuve de solidarité à l'égard de la République espagnole.
À la fin de la guerre d'Espagne, lorsque les franquistes ont pris Madrid et Barcelone, les derniers boucliers des républicains, les soldats de la liberté, ont dû fuir leur propre pays. Avec eux, des volontaires étrangers qui ont rendu compte de ce qui se passait en Europe à cette époque et qui sont venus aider à lutter contre la montée du fascisme ont également dû fuir vers la France, pays des droits de l'homme. Dans d'affreuses conditions, plus de 500 000 hommes traversèrent les Pyrénées durant l'hiver 1939. À leur arrivée en France, ils furent placés dans des camps où régnait le froid, la faim et la maladie. C'est cette partie de l'histoire que nous allons vous raconter. Qui sont les républicains et les brigadistes ? Les républicains espagnols incluent la gauche avec les socialistes, les communistes et les anarchistes, mais aussi les partisans du gouvernement du Front Populaire, qui était le gouvernement légitime de l'Espagne jusqu'au coup d'État de Franco. Ils se sont battus pour l'abolition de la monarchie, pour la répartition des terres entre tous les paysans, le suffrage universel, la laïcité et l'éducation pour tous. La guerre civile espagnole n'était pas seulement une lutte nationale. Des soldats d'autres pays se sont unis pour lutter contre le fascisme en Europe. C'est ainsi que sont nées les brigades internationales. Alliés du côté républicain, ces miliciens de tous les pays sont venus soutenir les Espagnols et se battre pour leurs valeurs morales et contre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Ces soldats étaient des volontaires et venaient de 50 pays différents. Ils étaient plus de 35 000. C'étaient des communistes, des socialistes et des anarchistes. Parmi eux, des célébrités comme l'écrivain français André Malraux ou l'écrivain américain Ernest Hemingway. Les républicains espagnols ont créé un nouveau camp. Ils ont résisté pendant 3 ans, mais en 1939, ils ont perdu les villes de Madrid et de Barcelone, puis la guerre. Les brigadiers dans les camps. Les membres de brigades les plus connus sont ceux qui, sous le nom espagnol de Brigadas Internacionales, ont combattu aux côtés des républicains contre les rebelles nationalistes pendant la guerre espagnole entre 1936 et 1939. On peut prendre l'exemple du camp de Rivesaltes, en France, car c'est là que la Seconde Guerre mondiale a commencé d'une certaine façon. La défaite des républicains espagnols combattant Franco et les fascistes, ajoutée à l'inaction des démocraties européennes, a entraîné la migration de 500 000 Espagnols et volontaires des brigades internationales vers la France. En 1939, une centaine de milliers de personnes ont fui vers la France dans des conditions dramatiques. À leur arrivée, on ne leur a donné que des tentes et on leur a demandé de construire leur maison. La situation de ces hommes, femmes et enfants était catastrophique. Ils pensaient que la France était le pays des droits de l'homme, mais ils se rendirent compte qu'ils avaient eu tort. Il y avait des réseaux de citoyens français pour aider ces personnes, mais la politique du gouvernement consistait à endiguer ces réfugiés. Le gouvernement français voulait renvoyer ces personnes dans leur pays d'origine le plus rapidement possible. Franco voulait que les républicains espagnols se rendent en France car c'était un bon moyen de pression pour ne pas avoir d'adversaire dans son pays. Si les exilés étaient revenus à nouveau, ils auraient subi la répression et la stigmatisation en Espagne. Cela a permis d'exercer une pression sur le gouvernement français. Ces 500 000 personnes constituaient la majorité des internés du camp de Rivesaltes entre le convoi d'hiver de 1939 et novembre 1941. Le gouvernement français a enfermé les républicains espagnols dans des camps des Pyrénées à Argelès, Saint-Cyprien et Gurs. Parmi eux, plus de 5 000 militants antifascistes, allemands, italiens, autrichiens, hongrois, avaient fui leur pays pour lutter contre le fascisme. lors de la signature du pacte soviétique-allemand, le 19 août 1939, ces héros apprirent la trahison de Staline. Les républicains et les brigadistes ont tous été traités de la même manière à leur arrivée en France. Le gouvernement français a décidé de ne pas s'inquiéter du sort de ces personnes en toute connaissance de cause. Ces réfugiés ont été internés dans des camps où les conditions de vie étaient désastreuses. Ces soldats de la liberté, avertissant l'Europe de ce qui se passait, n'ont pas été écoutés. De plus, ils ont été maltraités. Les brigadistes, en majorité, ont souffert comme les républicains parce qu'ils ne pouvaient plus en rentrer dans leur pays. Mais l'image que la France leur a donnée n'est pas perdue. Ils ont toujours continué à croire aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Certains ont combattu comme résistants pendant l'occupation allemande de la France, bien qu'ils aient été en captivité jusqu'en 1941.
À leur arrivée en France, les réfugiés espagnols reçurent un accueil mitigé. En effet, une minorité de personnes leur a apporté l'aide dont ils avaient besoin en se montrant généreux et accueillants. Malheureusement, la grande majorité des Français se montrèrent inhospitaliers et renfermés sur eux-mêmes. Durant cette période, une atmosphère xénophobe régnait en Europe, surtout en France. Le long et difficile voyage qu'ils avaient entrepris dans l'espoir de trouver un refuge se transforma en cauchemar. Ils furent internés et dispersés dans différents camps de concentration, beaucoup sur les plages. Le désordre et la désorganisation des autorités françaises s'expliquent par leur grande surprise à leur arrivée. En effet, ils ne s'attendaient pas à un nombre si grand de réfugiés dans leur pays, plus de 500 000. Dans un premier temps, les militaires français les ont désarmés et enregistrés. Puis, les réfugiés ont été envoyés dans différents camps de concentration. Certaines familles ont été séparées à cause de la pression sur les frontières et du manque de supervision des Français. Les femmes et les enfants furent internés à l'intérieur du pays, tandis que les hommes ont été déportés sur le littoral. Les conditions de vie dans ces camps étaient précaires. L'approvisionnement en vivres n'était pas suffisant. L'eau était contaminée et n'était pas potable. Les conditions dans les camps variaient, mais elles étaient souvent mauvaises. En conséquence, les plus faibles et amaigris n'avaient pas la force suffisante pour résister à la vie dans ces camps. Soldats français, même si ce n'était pas leur cas à tous, traitaient avec mépris les réfugiés. Comme le dit Georges Bartoli, le camp de concentration était l'ultime humiliation. Les Espagnols étaient traités comme des êtres inférieurs, inutiles. Les gardes des camps leur donnaient parfois des ordres comme s'ils n'étaient que des chiens. Les conditions de vie des camps de concentration étaient horribles, inhumaines, contrastant avec cette dite France des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas imaginer ce que les réfugiés ont vécu. Prenons pour exemple le camp d'Argelès-sur-Mer. Ce camp était installé sur une plage du nord, avec un vent puissant et froid, insupportable. Il n'y avait rien, pas de campement, pas de cuisine, pas d'infirmerie et pas d'électricité. Les réfugiés ont dû construire eux-mêmes leur refuge, improviser un camp, et le temps passant, les cas de dysenterie ont commencé à se multiplier. Ils n'avaient pas grand-chose à manger, leur alimentation n'était pas saine. Les cas de typhus ont aussi augmenté. Compte tenu des conditions sanitaires médiocres, le taux de mortalité dans les camps de concentration était élevé. 400 personnes y sont mortes sur 100 000. Comme nous l'avons expliqué, les conditions de vie dans les camps étaient horribles et inhumaines. Le manque de médicaments et de matériel de soins a contribué à la propagation de maladies. Le camp était infesté de parasites, comme des poux, et des épidémies comme la dysenterie circulaient librement. Le personnel médical était très restreint et ne pouvait leur apporter de soins corrects faute de moyens. Les morts se sont accumulées de plus en plus et étaient mis dans des fosses sur la plage. Pour parler des points positifs, et tout aussi importants dans le camp, on peut observer qu'il y a eu un élan de solidarité et de fraternité exceptionnel entre les membres du camp. Grâce au soutien de différentes organisations internationales et à sa mobilisation, les réfugiés ont pu organiser différentes activités sportives et collectives. L'espace accordé à la culture est de plus en plus important et des activités intellectuelles telles que les débats politiques rythmaient et égayaient le camp. Tous ces éléments étaient fondamentaux et contribuaient à la bonne santé mentale des réfugiés. La sortie des camps de concentration a été désorganisée. En effet, les prisonniers ne sont pas sortis au même moment et les destinations de retour ont été diverses. La majeure partie des réfugiés sont retournés en Espagne. À leur retour, certains ont été tués par le régime franquiste. À cause de cela, certains ont décidé de rester en France pour y habiter. La retirada constitue un apport humain et culturel de la région des Pyrénées-Orientales. Une grande partie des Espagnols et des Catalans ont continué à y vivre. Grâce au temps et au travail de nombreuses générations, cette population a obtenu une importance majeure dans l'économie et la culture de la région. Les traditions telles que la corrida et culinaires comme la paella en sont leur héritage. La retirada a été une période très compliquée pour les réfugiés espagnols, qui ont d'abord dû vivre dans des camps, puis survivre dans des conditions inhumaines. Ce moment est un événement qu'aucun des survivants n'a oublié. C'est pour cette raison que beaucoup des survivants ont écrit des livres pour montrer leurs expériences. Plus de 100 réfugiés ont écrit leurs histoires. Un de ces témoignages qui m'a beaucoup plu est celui de Joseph Camille, qui n'avait que 16 ans en 1936. Il est une figure de la mémoire de tous les soldats et pour toutes les familles qui ont subi la violence de la guerre et celle des camps français.
Todas las madres del mundo esconden su vientre tiembla. Todas las madres del mundo esconden su vientre tiembla. No quisieran retirarse.
Les enfants républicains faisaient partie des premiers Espagnols à quitter le pays, puisque leurs parents ne voulaient pas qu'ils reçoivent une éducation franquiste. Cette éducation, ennemie, était rejetée par les républicains. Antonio de la Fuente, enfant lors de la retirata, dit qu'il se souvient des paroles de son grand-père très vivement. « Les enfants, nous sommes républicains, avant tout républicains. » Ces enfants républicains étaient devenus des sortes de messagers, qui devaient sauvegarder cette valeur républicaine espagnole en quittant le pays. Pour quitter l'Espagne, ils étaient regroupés en colonies pour pouvoir traverser, mais certains d'entre eux migrent seuls et plus en avance vers la France. Les enfants étaient séparés en petits groupes et ont été accueillis partout dans le pays. En mai 1938, on dénombrait 47 colonies qui hébergeaient un total de 2669 enfants dans toute la France, sans compter les familles d'accueil. Ce nombre de colonies a augmenté au fil du temps, puisqu'en 1939, on en comptait 57 capables d'héberger 2950 enfants. Ces colonies qui ont sauvé beaucoup de jeunes ont principalement été créées par des associations municipales et humanitaires telles que le Service Civil Volontaire International, le Comité International d'Aide aux Enfants Réfugiés ou le Secours Rouge International. Il y avait en plus environ 1800 enfants dans des familles d'accueil, ce qui augmente le total d'enfants hébergés en France à peu près 5000. Cela montre une réelle solidarité de la part des Français qui ont dû s'adapter pour adopter ces enfants d'un autre pays, possédant une éducation, une langue et une culture différentes. Cette mobilisation a permis à beaucoup d'enfants d'éviter les camps de concentration qu'on retrouvait au bord de plages et donc d'échapper à la misère qui y régnait. L'éducation était un aspect primordial pour ce qui est de l'intégration en France, puisque c'est par ce moyen que les enfants espagnols ont pu se délivrer des difficultés auxquelles ils pouvaient être confrontés. Les flux d'arrivées qui se déroulaient à cette époque généraient pour la plupart des actes de solidarité, mais aussi des actes d'opposition qu'il ne faut surtout pas négliger non plus. Par exemple, l'augmentation de la xénophobie ou la difficulté d'acceptation des enfants espagnols. Face à cette situation, l'éducation nationale prit en charge toutes les disponibilités qui lui étaient possibles pour pouvoir établir une base plus ou moins solide et favorable envers les enfants. Il est de l'obligation pour l'État français d'admettre ces enfants auxquels les lois de 1936 imposent l'obligation scolaire, reporte l'ancien ministre de l'Éducation, Jean Zay, en 1938. Néanmoins, il se pouvait y avoir des contraintes et des restrictions quant à l'admission des enfants dans les écoles, qui subissent des pressions, entre autres provenant de la part des familles, qui n'étaient pas toutes d'accord de mélanger les enfants réfugiés avec les leurs. En effet, l'éducation nationale disait explicitement aux écoles qu'en cas de gêne, il conviendrait de refuser purement et simplement l'accès des écoles à tout enfant de nationalité espagnole, quel qu'il soit. Mais malgré des contraintes qui pouvaient se présenter, les enfants espagnols trouvèrent en France des conditions plutôt favorables, voire même normales, en termes de vie quotidienne, regroupant notamment le facteur majeur et essentiel qui est évidemment celui de l'éducation. Comme nous l'avons vu, beaucoup d'enfants ont été accueillis par des associations et des familles en France. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Antonio de la Fuente a vécu dans différents camps à l'âge de 9 ans, mais il cherchait toujours à s'amuser avec les autres enfants, ce qui nous montre très bien que malgré le monde corrompu par la guerre, les plus jeunes ont tout de même réussi à garder leur innocence en jouant à certains jeux, comme celui des billes par exemple. Ils ont dû créer leurs propres billes à partir de terre, ce qui les a aidés à développer leur intelligence et leur créativité pour le futur. La misère les a endurcis et éduqués. Au bout de quelques années, Antonio a finalement réussi à trouver du travail en France au début des années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, et s'est marié avec Huguette, sa femme. Malgré les atrocités de la retirada, cette dernière a permis à la vaste majorité des enfants de se construire une nouvelle vie en France et de fonder une famille, comme pour le cas d'Antonio qui, maintenant, vit paisiblement. Il s'identifie désormais comme étant français plus que en tant qu'espagnol. Ces enfants maintenant âgés ont créé des groupes comme la FFREEE, fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'Exode, pour célébrer la ténacité des Espagnols qui ont souffert de leurs parents maintenant décédés.
Les premiers réfugiés de la guerre civile arrivent en 1936, fuyant l'avancée des troupes franquistes. Ils espéraient trouver réconfort et soutien à leur arrivée en France, mais ils ont vite été confrontés à la réalité. En effet, le gouvernement français n'était pas prêt à accueillir autant de réfugiés. Cependant, ces derniers étaient soutenus par la gauche française et des partisans humanistes. La plupart du temps, ils ont été accueillis par des institutions favorables à la République espagnole, appartenant à des villes de gauche ou à des organisations syndicales. Face à cette situation dramatique, les organisations internationales d'aide telles que le Comité international de coordination et d'information pour l'aide à l'Espagne républicaine, un organisme créé par le gouvernement de la République le 13 août 1936, situé à Paris pour assurer la coordination des efforts en faveur de l'Espagne républicaine à l'échelle internationale. Les villes de Toulouse ou Bordeaux ont accueilli des réfugiés républicains. Les autres départements de la côte atlantique ont également été touchés, ainsi que le Massif central, les Bouches-du-Rhône et la région. D'autres moyens d'aider les réfugiés ont été créés. Tout d'abord, le journal L'Indépendance des Pyrénées-Orientales a proposé plusieurs pages d'annonces pour retrouver des parents perdus. Un service a envoyé des copies à toutes les préfectures pour être envoyées dans les camps des réfugiés de département. L'accueil des nouveaux arrivants est différent d'un endroit à l'autre. Parfois, ils sont bien reçus et font même l'objet d'actions de solidarité, avec les îlots de solidarité qui trouvent leur source dans l'engagement politique et syndical de la gauche. Avec la solidarité intra-espagnole, l'Espagne constitue la troisième source d'immigration française avec 250 000 Espagnols en 1936. Plus tard, la Croix-Rouge suisse, une association humanitaire, a aidé les réfugiés et surtout les femmes. En effet, les femmes étaient enceintes et certaines d'entre elles et leurs enfants sont morts à cause des conditions dans les camps. C'est pourquoi en 1939, une femme, Elisabeth Heidenbenz, a créé avec la Croix-Rouge suisse de la maternité suisse d'Elm, qui permettait aux femmes d'accoucher. Par ailleurs, de nombreux journaux, l'Humanité, Le Soir, Le Populaire, Regard, Le Libertaire, La Flèche de Paris, réalisent de nombreux documentaires dans les camps pour alerter la population sur les conditions de vie dans les camps. La faim et le froid font de nombreux morts. La situation s'est aggravée en 1939 après la défaite de Barcelone. En mars 1939, le plus grand groupe de retraités, 500 000 personnes, traverse les Pyrénées. Des souscriptions sont faites, tandis que des bénévoles distribuent des couvertures et de la nourriture. Dans sa chronique quotidienne du soir, Luis Aragon, poète et journaliste français, rend compte du nombre de lettres qu'il reçoit des Français qui se portent volontaires pour accueillir les enfants. Après les bombardements de 1938, les évacuations d'enfants en France ont généralement été organisées par les autorités républicaines espagnoles qui voulaient maintenir un contrôle pédagogique sur les enfants que les autorités françaises essayaient d'éduquer. La solidarité a été principalement assurée par de nombreux comités qui ont aidé les enfants, c'est le cas de la Croix-Rouge suisse. Certains ont pu aller à l'école, d'autres malheureusement n'ont pas pu. À Montauban, dans le Tarn et Garonne, une école d'espagnol a été ouverte grâce à l'organisation Secours CACER. Le coût des associations a été pris en charge par le SERE, Servicio de Immigración o Evacuación de los Republicanos Españoles, et la JARE, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, organisme créé par le gouvernement républicain en exil et dont les principaux fonds financiers et économiques ont été apportés par des membres du gouvernement de la République en France pendant les années de guerre. Ainsi, pendant la l'Etapdida, beaucoup d'aides de toutes sortes a été organisée pour aider les réfugiés espagnols malgré leurs conditions de voyage et aussi de vie dans les camps. La France a été accablée par les événements, mais a réussi en partie à maintenir son statut de pays des droits de l'homme qui s'opposait au régime franquiste.
Josep Bartoli est un artiste né à Barcelone en 1910. Il a commencé à travailler comme illustrateur de presse et a publié des dessins dans des journaux tels que La Humanitat, Papeito ou La Rambla. Il participe à la création du syndicat des caricaturistes dont il devient le directeur en 1936. Josep Bartoli est un membre du parti militant et pendant la guerre civile il devient commissaire politique du POUM, parti ouvrier d'unification marxiste. Après la bataille de l'Ebre, Franco a imposé une dictature en Espagne. Josep Bartoli, pour fuir cette dictature, se réfugie en France avec plus de 440 000 républicains durant l'hiver 1939. Mais la France subit la pression du général Franco et emprisonne les républicains dans des camps de concentration. Pendant 2 ans, Josep a visité 5 camps de concentration comme Argelès-sur-Mer. Pendant sa détention, Josep Bartoli a secrètement dessiné dans son cahier. Dans ce cahier, il y avait des caricatures décrivant sa vie dans les camps de concentration. Comme on peut le voir dans ses dessins, Josep a vu beaucoup de choses dans les camps de concentration et il les a tous dessinés sous forme de caricatures. Grâce à ses dessins, nous pouvons vivre tout ce qu'il a vu. Il nous montre des soldats portant des cercueils entassant des cadavres et des armes. Il nous présente des soldats sales et marqués par les combats. On peut dire que le dessin l'a sauvé dans les camps. Selon Josep Bartoli, il dormait sur de la paille dans les camps et les maladies étaient très récurrentes.
Josep Bartoli s'est échappé du camp de Brume. Cependant, il a été arrêté par la Gestapo à Vichy et déporté vers le camp nazi de Dachau. Heureusement, il a réussi à s'échapper en évitant la mort. Il s'est échappé à Veracruz au Mexique, où se trouvaient de nombreux exilés espagnols. Il côtoyait des artistes de la région et était aussi l'amant de Frida Kahlo. En 1944, avec l'aide du journaliste Narcís Molins Fàbrega, il publie un livre intitulé « Camps de concentration » 1939-1940, où il raconte sa vie dans les camps de concentration. Il rencontre de nombreux peintres et réalise des dessins pour des journalistes à New York. Dans cette ville, il fait également des expositions, notamment l'exposition « Notes de la guerre » en 1946. Aujourd'hui, Josep Bartoli est toujours une icône de son temps, et grâce à son travail de dessinateur, nous avons un héritage important qui explique ce qu'était la vie dans ces domaines, et nous permet de ne pas oublier cette partie de l'histoire commune des Espagnols et des Français. Cette caricature est une représentation des camps en Afrique du Nord. L'auteur représente les gardes sur des chameaux. Dans ce dessin animé, nous voyons des prisonniers faire du travail forcé sous le soleil brûlant. Nous voyons également des soldats en arrière-plan tirer sur les prisonniers qui tentent de fuir. Ce dessin montre les terribles conditions de vie des prisonniers dans les camps. Ce document est la couverture d'un livre sur la retraite et les caricatures de Josep Bartoli. La couverture est une caricature hautement symbolique de soldats affaiblis et mourants. On voit un paysage dévasté, des monticules d'armes et surtout le tombeau de la France comme si le pays était mort dans le cœur des Espagnols.
Est à propos de l'écrivaine espagnole Hortensia Blanche Pita, plus connue sous le nom de Silvia Mistral. Elle est née à Cuba en 1914, mais a passé une grande partie de son enfance en Catalogne, en Espagne. En 1926, elle et sa famille rentrent dans son pays d'origine jusqu'à la proclamation de la République, qui les incite à retourner une fois de plus en Espagne, plus précisément à Barcelone. Avant la guerre civile, en 1930, elle était journaliste et écrit des articles pour différents journaux espagnols et était spécialisée en critique cinématographique. Quand la guerre civile a eu lieu, elle décide de lutter dans l'arrière-garde. Elle écrit dans le journal républicain La Vanguardia, qui signifie l'avant-garde. Du fait de la déroute des républicains et des brigadiers internationaux contre l'armée de Franco, Silvia Mistral a dû quitter l'Espagne avec un nombre important d'autres opposants. Pendant cette période difficile, elle a écrit un livre qui s'appelle Exodo, Diario de una refugia española, ce qui signifie Exode, journal d'une réfugiée espagnole. Dans ce livre, Silvia Mistral témoigne de son expérience de vie durant l'exode et aussi dans les camps, mais également de la solidarité, de l'espoir, de la force mentale des réfugiés. Ce livre, même si c'est un livre qui traite de l'histoire personnelle de Silvia Mistral, relate l'histoire collective des républicains et des brigadiers, et de l'humiliation qu'ils subirent. L'œuvre est un témoignage de la violence de la guerre civile, mais aussi des valeurs des réfugiés, et de l'importance de leur force mentale, de leur espoir et de leur solitude. Le témoignage de Silvia Mistral a permis de montrer à quel point la retirada était difficile pour les réfugiés espagnols. Après son long chemin, elle était à Barcelone et elle vit de ses propres yeux comment la guerre a affecté et changé la vie des habitants, particulièrement celle des enfants. Dans les rues détruites, elle vit beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Ce fut une triste réalité. Durant la retirada, sur le chemin pour arriver en France, les avions du bord franquiste bombardaient les femmes, les enfants et les soldats sans défense, qui constituaient une large file de réfugiés espagnols. Ainsi, le chemin se déroula avec peur, froid et fatigue. Les franquistes étaient des monstres impitoyables. Ensuite, l'écrivain raconte son arrivée en France, la plage d'Argelès-sur-Mer et les camps de concentration. À Argelès, il est plus facile d'entrer que de sortir. Il y a une plage immense et rien d'autre. Ni maison, ni eau, ni nourriture, ni d'infirmiers, ni de médecins. Seul le sable et le vent. Et les Sénégalais, grands et noirs, ils semblent comme des enfants auxquels on a mis un fusil, un uniforme et un ordre de tuer. Personne ne pouvait imaginer comment était cette plage avec le froid et la nuit. Il n'y avait pas de bandage pour les blessés, ni un peu d'eau bouillie pour les malades. Rien. Entre 75 000 et 100 000 hommes dormaient sur le sol, sans couverture pour eux. Le matin, certains avaient un petit déjeuner sec, congelé par le froid. Sylvia Mistral a vraiment essayé de transcrire les mauvaises conditions dans lesquelles elle et les autres réfugiés vivaient. Les réfugiés commencèrent à comprendre que le gouvernement français ne voulait plus recevoir d'Espagnols, ce qui permit de garder espoir d'aller vivre au Mexique. En fait, le gouvernement mexicain était le seul qui voulait accueillir les réfugiés dans de bonnes conditions. À l'intérieur des camps, tout le monde voulait aller au Mexique, en bateau. Beaucoup de réfugiés se convinrent qu'ils ne pouvaient pas rester ici pour toujours, et qu'un jour, ils iraient au Mexique pour une nouvelle vie. Ce que Sylvia Mistral tente de mettre en avant est que les réfugiés, à aucun moment, ont perdu leur dignité. En effet, bien que ce fût un temps difficile pour les Espagnols, les républicains qui étaient dans les camps de concentration continuèrent de vivre et ne se sentaient pas malheureux pour eux-mêmes. Ce fut la principale force des réfugiés. Une chose qui les a aidés était la littérature, en particulier leur amour pour les poèmes. Par exemple, dans son livre, Sylvia Mistral cita à de multiples reprises le poète Garcia Lorca, un Espagnol qui a écrit des poèmes à propos de la nature et qui est mort en 1936, fusillé par les fascistes pendant la guerre civile. Les poèmes de Garcia Lorca décrivent de nombreux réfugiés. Et en outre, son amant lui récitait des vers d'un poème de Garcia Lorca pour réconforter Sylvia Mistral, qui était dans une période difficile mentalement et physiquement. Grâce à la littérature, un lien fut établi entre les réfugiés, qui se sont aidés mutuellement. Pour Sylvia Mistral, son journal est un moyen pour surpasser le drame de la déroute avec la force d'idéaux toujours intacte. Pour qualifier le fait que la retirada fut un moment horrible de l'histoire, Sylvia Mistral n'a pas oublié de parler de ses moments de joie. Elle se souvient des moments où elle se sentait heureuse, comme par exemple quand elle se réfugiait dans la maison du peuple, dans le Languedoc-Roussillon, quand un étudiant français a lu ses poèmes, ou aussi quand elle a conduit une mobylette avec un soldat espagnol. Cela ne signifie peut-être rien pour nous, mais ce sont ces moments qui ont aidé Sylvia Mistral et d'autres réfugiés à résister. Si on parle à propos de l'histoire de Sylvia Mistral, c'est pour montrer qu'il y a toujours une lumière au fond du tunnel. Après un long moment en France, Sylvia et d'autres réfugiés ont eu l'opportunité d'aller au Mexique avec le bateau Ipanema. Grâce à cela, les Espagnols ont commencé une nouvelle vie et se sont reconstruits avec ces souvenirs qui étaient pour la plupart difficiles à oublier, mais aussi des souvenirs de solidarité parmi les humains et des moments qui ont construit leur manière de penser. Et comme elle l'a écrit, nous sommes à la fin d'une époque et aux portes d'une nouvelle vie. Et notre âme se remplit d'une nouvelle émotion.
Bonjour. Je vais vous présenter la vie de Agustí Centelles Lloso. Il est né le 22 mai 1909 à Valence et mort le 1er décembre 1985 à Barcelone. C'est un photojournaliste de renom pendant les années d'avant-guerre. Centelles, face à l'extrême droite, s'est engagé en juillet 1936 pour la défense de l'État démocratique. Il est comparé à Robert Capa car son travail pendant la guerre civile est d'une qualité similaire. Nous allons retracer ensemble une partie de son histoire. Mobilisé en 1937 par le Bureau républicain de propagande, il devient l'un des plus grands iconographes de la résistance. C'est en partie grâce à la guerre civile qu'il s'impose comme photographe de guerre. Parmi ses plus belles photographies, il recueille les batailles menées par les habitants de Barcelone contre les militaires depuis les premiers jours du coup d'État de 18 juillet 1936 contre la République espagnole. Il s'est enrôlé comme photographe pour l'armée loyale après quelques semaines à Barcelone. Il couvrira tous les fronts. Il se rendra en Aragon avec les Allemands des brigades internationales à l'hiver 1937. Après la défaite début 1939, emportant son appareil photo et ses négatifs, Centelles doit fuir en France comme des centaines de milliers de personnes, jeté sur les routes, fuyant l'avancée franquiste. Puis, il a été interné au camp d'Argelès et au camp de Bram, s'est évadé et a travaillé un temps comme photographe à Carcassonne. Il revient finalement en Espagne en 1944, où il reprend l'activité de photographe industriel. Il n'a récupéré ses négatifs de la guerre qu'en 1976, après la mort du dictateur Franco. Nous allons maintenant vous parler d'un livre intitulé « Centelles », paru en juin 2009 et qui retrace la vie de ce photographe en exil et qui va nous montrer la douleur des camps. On a donc sélectionné quelques citations qui montrent à quel point ces derniers étaient barbares. Il n'y a pas de médicaments. Il y a seulement du pain pour se nourrir. La vie dans ce camp ne peut être endurée. On comprend, grâce à ces dernières, les conditions terribles dans lesquelles ces gens vivaient. À un moment du récit, un gendarme les presse en leur disant « Allez, allez !» ce qui illustre la pression constante à laquelle ils doivent faire face. On nous annonce également qu'ils ont été regroupés en groupe de 40 hommes pour la distribution de pain. Cela aussi illustre parfaitement la précarité dans laquelle ils vivent. Nous allons également vous parler de deux photos qui nous ont particulièrement intéressés. Donc, une photo du camp de Bram qui capture la réalité de la vie des gens là-bas. Au premier plan, on distingue deux hommes vêtus de manteaux épais. On imagine donc le froid dans lequel ils doivent vivre. Il est possible que ce soit les gendarmes français du terrain, comme évoqué dans le texte de Laurence Garcia. Ils sont derrière une clôture en pierre en fil de fer barbelé. En arrière-plan, dans cette enceinte, les hommes sont couchés dans un bâtiment qui a une surface très faible. De loin, ils ont l'apparence de prisonniers et même presque de bétail. Cette photo nous rappelle la déshumanisation qui a eu lieu dans les camps de réfugiés. Nous avons choisi une autre photo de Jean-François Noël qui sont des images de ruines du passé. On voit des bâtiments bruts et sobres. Il est facile d'imaginer que la vie n'était ni agréable ni facile. Sur la deuxième photo du camp de Rivesaltes, le bâtiment central était une salle de bain ou une douche. Cependant, les cloisons entre les cabines sont très fines et le bâtiment est presque ouvert sur l'extérieur. Cela montre pour la deuxième fois les conditions de vie horribles des réfugiés.
De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres palomas siempre será la unión.